Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Alors aujourd'hui je suis avec Laurent Coulon, directeur de la direction de l'archéologie de Chartres Métropole, mais également Frédéric Dupont, qui est notre spécialiste de la préhistoire et notamment du néolithique, avec qui nous avons déjà abordé et redécouvert l'histoire très ancienne de Chartres. Et aujourd'hui, nous allons explorer un quartier particulier que vous connaissiez avant sous le nom de Beaulieu et maintenant du quartier des Clos. Et donc nous allons revisiter cette histoire. Alors Laurent, où se situe-t-on dans la ville? Où est ce quartier des Clos?
Alors le quartier des Clos, anciennement quartier Beaulieu, se trouve au sud-est de l'agglomération, sur la rive droite de l'Eure et sur un plateau qui domine la vallée.
Donc une situation peut-être un peu privilégiée dans la ville?
Une situation excentrée par rapport à la ville, mais une position topographique intéressante pour l'occupation humaine.
Et d'où vient le nom, enfin d'où viennent les noms successifs de ce quartier?
Alors le nom le plus ancien, c'est Beaulieu. Bello loco, c'est-à-dire le beau lieu, justement, peut-être en lien avec la vue sur la ville et sur la vallée. Et ce toponyme est présent depuis le XIe siècle.
Et qu'on l'a connu là jusqu'à encore très récemment, puisque depuis les nouveaux aménagements, donc le quartier qui se renouvelle s'appelle Les Clos. Pourquoi ce toponyme?
Les Clos sont liés probablement là aussi au fait que de façon ancienne, il y avait énormément de vignes dans ce secteur et certaines vignes étaient encloses et portaient le nom de Clos. Donc comme en fait, le Clos Brette, par exemple.
Donc on a des noms de lieux liés un peu aux activités ou à la position de ce quartier.
Oui, liés au paysage, principalement.
Est-ce que, Laurent, vous pouvez nous faire une rapide présentation historique de ce quartier, justement, avant son nouveau visage que l'on connaît depuis les années 2000? Qu'est-ce qu'on en connaissait avant?
Alors, en termes archéologiques, on n'en connaissait rien, puisqu'il n'y avait pas d'observation. Nous n'avions que qu'une connaissance historique. On sait quand même que pour la période antique, l'aqueduc antique de Doudouenne passe à proximité. Il passe sur le coteau, sur le versant de la vallée. Les premières mentions du lieu dans les textes remontent au XIe siècle, avec notamment à la fin du XIe siècle la fondation du prieuré clunisien de la Madeleine du Petit Beaulieu, prieuré fondé par les comtes de Chartres.
Donc là, on a déjà une communauté qui est installée et qui fait suite certainement peut-être à une occupation antique. Et comment évolue le quartier à la suite? Est-ce que vous avez eu d'autres mentions?
Alors, savoir comment le quartier évolue, c'est l'archéologie qui apportera la réponse. Pour le moment, il est impossible de dire si le hameau de Beaulieu préexistait à l'implantation du prieuré ou si c'est parce qu'il y avait un prieuré que ça attirait des habitants et donc que le prieuré est à l'origine de la création de la naissance du hameau.
Et ce hameau, il perdure jusqu'à quand? Parce que là, on a tous l'idée d'un quartier bien habité.
Alors, jusque après-guerre, jusqu'aux quasiment aux années 60, Beaulieu, c'est un hameau qui est, tout au moins jusqu'à la Révolution, rattaché à la paroisse de Saint-Brice. C'est un hameau peuplé de paysans et de vignerons.
Et du coup, avec le renouvellement du quartier, les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions, vous êtes intervenu avec votre spécificité et du coup votre regard d'archéologue. Combien d'opérations ont été menées dans ce quartier?
On a commencé à à intervenir sur un plan archéologique avec les premiers travaux de réaménagement du quartier, depuis 2007. Donc entre 2007 et 2016, nous avons réalisé une vingtaine d'opérations dans le quartier.
Et comment s'est passé un petit peu ce type d'intervention? Est-ce que c'était des interventions plutôt ponctuelles ou des grosses fouilles comme vous aviez eu l'habitude de nous en décrire ici dans l'émission?
On a eu un peu tous les cas de figure. En général, tout le temps, on intervient en préalable aux travaux d'aménagement. Et depuis plusieurs années, en accord avec les aménageurs, nous attendons qu'il y ait une certaine maîtrise foncière, qu'il y ait des ensembles fonciers importants pour réaliser les diagnostics.
D'accord.
Ah, il faut savoir qu'il y a eu une injonction, on va dire, de l'État pour que tout le quartier soit suivi au niveau archéologique, puisque ce que disait Laurent justement, c'est qu'il n'y avait aucune connaissance archéologique sur l'histoire du quartier. Donc quand il a été envisagé de tout réhabiliter, il y a une saisine qui a été émise pour que tout soit surveillé au niveau archéologique. Et comme le disait Laurent, on a commencé par faire des petites opérations sur des petites surfaces. Et c'est pas très facile quand on fait de l'archéologie. On aime bien avoir un peu d'espace.
Avoir une vue d'ensemble.
Voilà, c'est ça. Et là, l'arrangement avec les aménageurs, c'est que dorénavant, on attend d'avoir un espace un peu plus grand, tout en suivant les démolitions pour pouvoir intervenir de façon plus pertinente à l'avenir.
Du coup, on va revenir plus en détail sur chacune des découvertes que vous avez pu faire grâce à ces différentes interventions. On va faire une petite pause musicale avec un jeune groupe folk Yuma et on se retrouve juste après pour découvrir donc le passé du quartier des Clos.
زين ايامي وصغر احلامي وبويا توحشت اللين وريحة الياسمين توحشت اللين وريحة الياسمين زنق الدار قواي الحس ودو جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت اللين والكرمة كيف تمي توحشت اللين والكرمة كيف تمي خزرة وغمزة وعشق الطفلة الأولى وقت الكلمة سليد محلولة توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت أمي وخرافات الغولة قهوة أختي وضحكة مش مخصورة توحشت سنين وريحة الياسمين توحشت سنين وريحة الياسمين توا ساكن بر الناس براسي بعيد وباقي الحسرة مواسي توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك
De retour dans votre émission Histoire et mémoire consacrée à l'histoire de Chartres. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Laurent Coulon et Frédéric Dupont de découvrir l'histoire du quartier des Clos. Alors Frédéric, on a vu, on a dit en introduction que le quartier avait déjà été traversé par un aqueduc à l'époque antique. Mais avant, est-ce que vous avez des traces plus anciennes d'occupation humaine dans ce quartier ?
Alors, au départ, on ne connaissait rien de ce quartier. Les premières découvertes faites sur les diagnostics ont permis d'avoir des indices, en tout cas, sur des occupations préhistoriques, voire même proto-historiques, mais de façon très fugace. Les premières découvertes intéressantes sont des fours, des fours néolithiques, datés à moins 4000 avant notre ère, qui sont des preuves d'activité artisanale ou domestique. Comme on l'a dit tout à l'heure, ces fours étaient d'abord dans un contexte très isolé. On était sur des espaces très petits. On n'a pas pu les associer à des activités particulières ou à des positions par rapport à l'activité néolithique. Heureusement, on a pu avoir sur une surface une fouille conséquente d'un hectare, la seule qui a eu lieu sur le quartier, et sur laquelle on a vraiment découvert l'ensemble des vestiges du néolithique moyen.
Alors, il se situe où ces vestiges, du coup, pour qu'on se repère un petit peu
alors,
géographiquement ?
Alors la fouille, c'est à l'emplacement de l'ancienne école des Catalpas.
D'accord.
Voilà. Donc sur cet espace, on a découvert d'autres fours. Les premiers étaient à l'emplacement de l'ancien stade. D'autres fours, des fosses de stockage avec des graines brûlées à l'intérieur, des vases associés et beaucoup de pièces lithiques donc, qui caractérisent l'activité quotidienne, on va dire, des hommes du néolithique et quelques jolies pointes de flèches aussi. Tous ces objets-là n'étaient pas associés à un bâtiment en particulier. Donc on rejoint là une hypothèse de travail sur le fait que les activités artisanales, notamment avec les fours, étaient dissociées par rapport à l'espacement des zones d'habitation.
D'accord, donc on distinguait vraiment, comme à notre époque, les activités plus économiques artisanales de l'habitat. Et quels sont exactement les objets que vous avez pu retrouver ? Vous avez cité pointes de flèche, poterie. Qu'est-ce que ça raconte de la vie de nos ancêtres à cette époque ?
Les vases en eux-mêmes sont des vases, là on a dit des vases de stockage. Donc on est bien sur un élément caractéristique de la période néolithique, puisque c'est la fin de la préhistoire, période à laquelle l'homme devient sédentaire, devient agriculteur, devient également éleveur. Donc le vase de stockage, c'est un élément très caractéristique de cette période, puisqu'on est sur une gestion en fait des graines et de l'activité céréalière. La pointe de flèche, c'est un point de détail, puisque ça montre à l'inverse que même s'ils étaient éleveurs, ils continuaient à chasser, bien sûr. Ou, on peut supposer, qu'il y avait quelques activités guerrières, mais qui n'ont pas du tout été identifiées dans ce coin-là. Alors, ce qui est intéressant par rapport au site de Beaulieu, la position topographique sur le plateau nous incite à penser que pouvait y avoir une installation beaucoup plus grande. Là, on a juste un hectare avec des activités artisanales et il nous manque les maisons, voire l'enceinte qui pourrait caractériser complètement le site. C'est pour ça qu'on attend la suite des opérations avec impatience.
Donc il va falloir encore chercher et trouver aussi, si vous le pouvez, d'autres indices, s'il y a d'autres opportunités de fouilles archéologiques. Donc c'est hyper intéressant. Et est-ce que à ce moment-là, quand on se situe au néolithique, comment se fait la transition ? Est-ce que vous avez un lien avec la période antique ou pas du tout ? Quelles sont les traces que vous auriez pu retrouver outre que l'aqueduc ?
Alors, sur toutes les opérations que j'ai pu mener, ou que Laurent a pu faire, on a très très peu d'indices antiques. Alors, Laurent en parlera tout à l'heure. Sur le plateau en lui-même, on a surtout les éléments néolithiques et quelques traces proto-historiques. Pas pour le moment de... Laurent parlait d'un priori tout à l'heure, mais on le cherche. On l'a pas encore. On n'a pas encore trouvé ces vestiges. Et il y a quand même un temps de latence assez important entre la période néolithique dont je vous parle, donc moins 4000 avant notre ère, et la période proto-historique, on va dire moins 1000 avant notre ère, et la période antique. Toute cette période-là n'était absolument pas connue, en tout cas sur le plateau.
Pas de vestiges redécouverts. Laurent, du coup, pour cette période antique, vous m'avez cité, en préparant l'émission, la cloche de bois. Alors, vous pouvez en dire un petit peu plus ?
Alors, c'est, nous, on l'appelle la cloche de bois, donc c'est la zone qui se situe à, au point de rencontre entre la rue du Faubourg-Lagrappe et la rue de Sourd.
Donc, on est vraiment au début du quartier quand on remonte.
C'est vraiment, oui, quand on remonte, c'est vraiment la patte d'oie quand on va vers, vers Beaulieu. Donc nous avons réalisé deux opérations à cet emplacement, un diagnostic suivi d'une fouille. Et nous avons à cet endroit-là un certain nombre de vestiges antiques qui semblent correspondre à une zone proche d'une entrée de ville. Voilà, donc des zones en aménagées en caillouti, peut-être comme zone d'attente, une mare, et puis un ensemble de remblais apportés à l'époque antique qui correspondent à finalement un vaste dépotoir dans lequel nous avons découvert des sépultures de périnatales, c'est-à-dire d'enfants morts autour de la naissance.
D'accord.
Hein, entre 8 et 10 mois lunaires après la conception.
D'accord. Et c'est normal de retrouver du coup des sépultures de petits enfants à l'entrée des villes ? Quel était le traitement réservé habituellement à ces enfants ?
À la période antique, normalement, les sépultures, les nécropoles, sont en dehors de l'espace sacré de la ville.
D'accord.
C'est toujours à l'extérieur, et encore plus pour ce type de sépulture, puisque ces périnatales avaient un statut particulier. Okay.
Merci Laurent pour cette précision. On va faire une petite pause à nouveau au sein de notre émission Histoire et Mémoire avec Serge Gainsbourg pour une fois. Et on se retrouve donc juste après pour poursuivre notre émission. Nous reprenons notre émission Histoire et mémoire avec cette dernière partie, un zoom plus spécifique sur la période médiévale du quartier maintenant appelé Les Clos. Je rappelle qu'on a abordé avec Laurent Coulon et Frédéric Dupont en début d'émission le passé néolithique et antique de ce quartier. Alors on va du coup progresser dans notre chronologie et revenir sur la période médiévale. Laurent, quels sont donc les traces ou vestiges ou connaissances que vous avez de ce quartier à cette époque?
Alors pour le moment, on n'a pas encore accroché véritablement le hameau médiéval. Il y a donc le prieuré clunisien de la fin du XIe siècle, qui n'est pas forcément un établissement très important. On sait qu'au XIIIe siècle, n'étaient présents que deux moines dans ce prieuré.
Et pour cet ordre, Laurent, quelle était la vocation ou la mission de ces moines? Ils devaient rester dans ce prieuré où ils pouvaient prêcher la bonne parole?
Ils ont une mission spirituelle, ils prient pour le reste de la société. Et ensuite, un prieuré, c'est aussi le centre d'une entité économique. Donc l'exploitation des terres qui y sont rattachées, et le prieuré de Beaulieu possédait une superficie de terres et notamment de vignes très très importante.
D'accord.
Voilà. Alors autre aspect finalement de la vie médiévale du quartier qui peut paraître anecdotique, mais qui est assez intéressant sur un plan archéologique, c'est très fugace, mais dans les zones dont on savait qu'elles étaient en culture à cette époque-là, mmh. on a trouvé quand même un certain nombre de monnaies, ces monnaies sont peut-être liées à l'activité des habitants du hameau, puisque en général, les gens étaient payés à la tâche ou à la journée.
Voilà. Et malheureusement, ils pouvaient perdre leur pièce.
On avait l'occasion donc de perdre sa monnaie sur son lieu de travail ou de distribution de la paye. Voilà. Alors pour la période moderne, on a une découverte qui est assez intéressante et spectaculaire. Donc c'est dans la partie basse vers le faubourg, la rue du faubourg La Grappe, donc à la cloche de bois, c'est la découverte d'un four de tuiliers, probablement du XVIIIe siècle, four de tuiliers qui était installé dans une ancienne carrière d'extraction de calcaire et qui était dans un état de conservation remarquable, et donc qui a été intégralement relevé, dessiné, photographié, puisque notre action est intrusive et destructive, et qu'après notre passage, en général, les vestiges ont disparu. Et d'ailleurs, ce four de tuiliers rejoint un renseignement historique que nous possédions. On sait, grâce à la carte de Cassini, mmh. une carte qui date du milieu du XVIIIe siècle, que cette partie du faubourg La Grappe s'appelait le faubourg de la Tuilerie.
Donc il avait vraiment une activité que ce four vient en plus du coup corroler ou abonder dans cette hypothèse ou connaissance du quartier à cette époque.
Tout à fait.
Et à la suite, du coup, est-ce que vous avez eu d'autres découvertes qui font le lien avec la période plus récente?
D'autres informations beaucoup moins spectaculaires que le four de Tillier, c'est les fondations d'une ferme du 19e siècle qui ont été découvertes à l'angle de l'avenue François Mitterrand et de la rue d'Allonne, me semble-t-il. Les dalles ont été trouvées, les éléments de stabulation, la séparation des étables et les fondations des murs. Et l'avantage pour la datation, c'est que la date de construction était gravée dans la dalle. Voilà. Donc on a tout de suite connu la date de fondation du bâtiment, et on a très peu d'éléments associés. Heureusement, parce que malheureusement, les éléments associés nous permettent normalement de dater les bâtiments, mais là on avait déjà la date. Donc cette cette ferme n'était pas identifiée, n'était pas connue, et elle a été découverte alors qu'on cherchait le prioré dont on parlait tout à l'heure, qu'on a toujours pas découvert.
Comme quoi, une recherche peut amener une autre découverte et ça enrichit toujours votre connaissance. En tout cas, ça corrobore tout ce que vous nous aviez dit de cette fonction un peu agricole qui donc a perduré jusqu'aux années, peut-être les plus récentes.
Jusqu'après-guerre.
Jusqu'après-guerre. Frédéric, je crois que vous vouliez nous reparler de vos ambitions pour vos recherches archéologiques en ce qui concerne ce quartier, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et quel est un peu votre Graal, là, pour le quartier des Clos?
Déjà, si on veut faire un bilan par rapport aux opérations archéologiques, on est à peu près intervenu sur la moitié de la surface qui avait été saisie par l'État, par le service régional de l'archéologie. Donc il nous reste encore tout un pan de l'histoire de Beaulieu à essayer de découvrir. Depuis tout à l'heure, on parle du prieuré, on en parle de façon assez virtuelle, parce qu'on n'a pour le moment aucun élément tangible découvert sur le terrain, alors qu'on devrait avoir des fondations de bâtiments, peut-être un cimetière, et en tout cas beaucoup d'éléments associés à cet ensemble. En tout cas pour la période médiévale, c'est bien ça, Laurent ?
Tout à fait, oui. Le prieuré est un peu notre Graal. Pour l'instant, on n'en a aucune trace, à part dans les textes. Hein. C'est, j'espère, la découverte des années qui
vont venir et qu'on espère, parce qu'il y a encore d'autres aménagements qui vont être prévus sur le quartier. Donc on espère pour vous que ce sera l'occasion de réaliser ces découvertes, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise.
Jamais.
Je crois que la villa romaine, ce serait aussi confirmé s'il y a une occupation antique ou non. Ce serait peut-être aussi un autre indice pour vous important.
Pour le moment, on n'a aucun indice d'une présence antique sur le plateau, sous le quartier, mais il reste quand même une vaste superficie à explorer. Et on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une surprise, d'une villa antique, par exemple, d'une ferme gauloise, ou d'une occupation, par exemple, du Haut Moyen-Âge.
Et puis surtout, il nous manque encore tous les éléments sur l'habitat néolithique, son extension, sa nature, son lien peut-être avec d'autres sites. Des éléments très importants encore pour caractériser complètement la pérennité de l'occupation néolithique et sa densité.
Merci messieurs d'avoir participé à cette nouvelle émission d'Histoire et Mémoire, donc je le rappelle, consacrée aujourd'hui au quartier des Clos. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission et la réécouter sur le site internet de Radio Grand Ciel et avoir quelques détails imagés dans le magazine Votre Ville, édité par la ville de Chartres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Histoire et Mémoire.
Chariolillos, 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 chariolillos. Pali Samukani,
Pali,
Pali Samukani,
Pali,
Pali Samukani,
Pali.
Toha Logo.